Merci d'avoir choisi Europe 1, il est 7h.
Voici les résultats pour 117 contre 86. Le texte est donc adopté en première lecture.
Les débats ont paru interminables à certains députés. L'Assemblée nationale a adopté tôt ce matin le projet de loi anti-Covid qui prévoit l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants. Valérie Pécresse, candidate à la présidentielle de 2022. Contrairement à Xavier Bertrand, la présidente de la région Île-de-France jouera le jeu de la primaire à droite. Et puis elle sera l'une des deux porte-drapeaux de notre délégation française à la cérémonie des JO de Tokyo. Clarisse Agbegnénou, quintuple championne du monde de judo avec nous dans ce journal. À suivre, l'éclairage éco de Maud Descamps et la pénurie de matières premières qui menace l'industrie du bâtiment. Votre conseil santé avec la docteure Brigitte Millot. Et puis le portrait olympique en ce jour donc de cérémonie d'ouverture et un autre monument du judo, Teddy Riner, qui visera à Tokyo son troisième titre. Très bon réveil, il est 7h01. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal, c'est avec Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Théo, bonjour à tous. Les débats se sont terminés au petit matin. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi anti-Covid qui prévoit l'extension du pass sanitaire, Hélène Terzian.
Oui, 117 voix pour, 86 contre. Le texte qui prévoit la vaccination obligatoire des soignants et l'extension du pass sanitaire est donc adopté en première lecture par les députés. Il aura fallu 2 jours de débat puisque si la mesure portant sur la vaccination des soignants faisait relativement consensus, celle sur le pass sanitaire beaucoup moins. La preuve, tous les débats se sont concentrés sur l'article premier, celui-là même qui permet d'étendre le champ d'utilisation du pass sanitaire. Il a concentré la grande majorité de plus de 1000 amendements déposés par les députés. Voilà pourquoi les débats se sont poursuivis jusqu'à l'aube. Lors de ces 2 jours de passe d'armes au sein de l'hémicycle, 2 points d'échauffement à noter. Une disposition du texte qui ouvre la voie au licenciement d'un employé travaillant dans un établissement qui reçoit du public et qui refuserait d'obtenir le pass sanitaire. Et puis, ce camouflet pour les élus, alors que les députés avaient hier voté contre, le gouvernement a rétabli à la toute fin des discussions l'obligation du pass sanitaire pour les patients non urgents et les visiteurs d'hôpitaux ou d'EHPAD. La balle est désormais dans le camp des sénateurs. Le texte arrive aujourd'hui dans la Chambre haute. Nul doute que là aussi, les débats seront houleux et que les amendements pleuvront. La droite sénatoriale a d'ailleurs d'ores et déjà prévu de saisir le Conseil constitutionnel.
Hélène Terzian du service politique d'Europe 1.
Le pass sanitaire, principale arme du gouvernement contre l'épidémie qui continue de flamber avec près de 22 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures.
Le plus haut niveau atteint depuis début mai, une flambée qui impose le retour du masque obligatoire à l'extérieur dans 16 départements, notamment le Var où la mesure entre en vigueur ce matin.
7h03 sur Europe 1, elle se lance officiellement dans la course à la présidentielle. Fraîchement élue à la tête de la région Île-de-France, Valérie Pécresse dit vouloir restaurer la fierté française.
« Je veux remettre le pays en ordre », a déclaré l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy qui jouera le jeu de la primaire de la droite. Valérie Pécresse qui a réuni dès hier soir quelques centaines de partisans au pavillon Baltard dans la banlieue est de Paris. L'occasion de rappeler d'où elle venait.
« J'ai 30 ans de vie au service de mon pays. Je connais notre État, notre Parlement, nos collectivités locales. Je sais ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et puis j'ai tant de fois parcouru nos cités, nos quartiers, nos villages. J'ai croisé tant de visages. Alors certains étaient rayonnants, ils avaient tout réussi. Et puis d'autres étaient brisés par l'existence. Et j'en avais le cœur serré. À chaque fois, j'ai fait tout mon possible. Et j'ai fait tout ce chemin parce que j'aime viscéralement la France. Et j'aime viscéralement les Français. Et maintenant, je suis prête et je suis déterminée.
Valérie Pécresse, hier soir, devant ses partisans au pavillon Baltard à l'est de Paris. Louis Dragnel, vous êtes le chef du service politique d'Europe 1. Cette candidature de Valérie Pécresse pour la présidentielle 2022, finalement, qu'est-ce que ça change vraiment à droite ?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, Philippe Juvin et Valérie Pécresse, tous candidats potentiels de la droite pour la présidentielle, se sont réunis il y a 3 jours pour essayer de s'entendre sur l'organisation d'une primaire sans pour autant l'acter véritablement. Et donc, en déclarant sa candidature la première, Valérie Pécresse vient de provoquer, de forcer l'organisation de cette primaire. Ensuite, la présidente de la région capitale vient de mettre une très grosse pression sur les épaules de Xavier Bertrand, car le président des Hauts-de-France, qui est déjà candidat à la présidentielle, ne veut pas participer à la primaire. Il l'a toujours dit, et il aimerait beaucoup être le seul candidat de la droite pour la présidentielle. Donc en se lançant, Valérie Pécresse est en train de forcer Xavier Bertrand à la négociation pour trouver une solution, car les électeurs de droite le savent, s'il n'y a pas un candidat et un seul, la présidentielle est presque perdue d'avance.
Louis Dragnel, donc, chef du service politique d'Europe 1. À l'étranger, faut-il mettre à l'arrêt la centrale nucléaire de Taishan en Chine? Un mois après la découverte d'une fuite dans le réacteur, la question se pose.
EDF a indiqué hier que si la situation se déroulait en France, elle arrêterait le réacteur. Mais en Chine, il continue de fonctionner, Maud Descamps.
En effet, l'électricien indiquait que si une telle situation existait dans l'une de ces centrales françaises, alors il procéderait à l'arrêt du réacteur dans les meilleurs délais, a indiqué un porte-parole du groupe Comprenez. Immédiatement. Mais voilà, la centrale de Taishan est en Chine et EDF n'est pas le seul décisionnaire. L'électricien détient 30% de l'entreprise qui exploite la centrale. Les 70% restants sont une société chinoise. C'est donc aux Chinois d'en décider, indique-t-on chez EDF. Pour plusieurs experts du nucléaire avec qui j'ai échangé, cette prise de parole est pour EDF une manière de se protéger et de dire « je vous avais prévenu ». Si la Chine décidait de ne pas arrêter son réacteur et si la situation continuait à se détériorer, interrogé sur une éventuelle date de décision de la part du co-exploitant chinois, EDF indique ne pas avoir plus de précision pour le moment.
Maud Descamps pour Europe 1.
On en vient aux suites de l'affaire Pegasus. À 7h07 sur Europe 1, Emmanuel Macron a demandé hier le renforcement de tous les protocoles de sécurité des moyens de communication sensibles.
Et jusqu'ici muet, Israël, pays d'où est originaire la NSO qui fabrique le logiciel espion, a fini par réagir. Une commission d'enquête a été créée. Mais les autorités veulent surtout tenter d'étouffer l'affaire car Israël aurait profité des ventes de Pegasus pour nouer ou renforcer des relations diplomatiques avec d'autres pays. Les explications de notre correspondante en Israël, Clotilde Mfraco.
Pegasus est pratique car il est indétectable. Pour Israël, c'est idéal, contrairement à des ventes d'armes qui finissent toujours par être repérées. Ce logiciel espion ne laisse pas de traces. Les gouvernements qui l'ont acheté auprès de la NSO peuvent toujours nier se l'être procuré. Officiellement, l'entreprise est privée, mais le ministère de la Défense israélien doit donner son feu vert à chaque vente de cette technologie à l'étranger, comme il le fait pour toutes les exportations d'armes. Et c'est là que la relation se trouble. Le journal israélien Haaretz démontre ainsi que des opposants ont commencé à être mis sous surveillance dans certains pays, comme la Hongrie ou l'Inde, juste après une rencontre officielle avec l'ex-premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le logiciel a été vendu à des pays dont Israël voulait se rapprocher, comme l'Arabie Saoudite, ou encore à des États comme le Rwanda, avec lesquels les relations diplomatiques étaient quasi inexistantes. Face au scandale, le Parlement israélien a annoncé hier la création d'une commission d'enquête, mais l'État hébreu le répète, il n'a pas eu accès aux informations récoltées par les clients de la NSO. Jérusalem, Clotilde Mravko, Europe 1.
Les JO de Tokyo, plus que quelques heures avant la cérémonie d'ouverture, elle débutera à 13h, heure française, dans des conditions particulières, Covid oblige.
Et on a le plaisir d'être en ligne justement ce matin avec l'une des deux porte-drapeaux de cette délégation française. Bonjour Clarisse Agbeniénou.
Bonjour.
On est à 6h maintenant du début de cette cérémonie. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous êtes prête ou est-ce qu'il y a un peu de stress?
Je suis dans la joie et la bonne humeur. Je suis tellement honorée et contente. Pour moi, c'est tellement un plaisir qu'il n'y a pas de stress, il n'y a que de la joie, il y a de la bonne énergie. Et j'ai tellement hâte d'y être, de défiler, de me dire qu'on va partager cette expérience. On va se dire que vraiment qu'en tant qu'athlète, parce que pour le coup, il n'y aura pas de téléspectateurs, enfin, il n'y aura personne dans les gradins, dans les tribunes. Donc on va pouvoir, en tout cas avec Samir, vraiment rigoler avec les autres sports, apprendre à se connaître encore mieux. Et pour nous, ça va être un moment privilégié.
Cette cérémonie sans public dans un stade de 68 000 places, on le rappelle, ça risque pas d'être un peu triste?
Bien sûr, c'est toujours triste. On aurait préféré les faire avec du public. Moi, j'étais là à la cérémonie d'ouverture à Rio. Donc je sais que ça a été magnifique. On était contents de regarder les gens, de les saluer. Maintenant, on fera ça différemment. On peut le faire, on est là. Donc on ne va pas s'apitoyer sur notre sort et on va en profiter à fond. En tout cas, moi, je le profiterai à fond.
Et même si les circonstances sont compliquées, rien que le fait de pouvoir être là, de concourir à ces JO avec un an de retard, c'est déjà une victoire?
C'est ça. Je pense que pour pas mal d'athlètes, même si c'est dur de ne pas avoir nos familles, même là, j'envoie des photos à mes parents, ils sont dégoûtés. Mais on est quand même là. Il y a un an, ça a été reporté. Quelques mois avant, ils disaient que ça allait être annulé. Pour nous, on s'entraîne quand même. Ça fait 5 ans qu'on s'entraîne pour faire les Jeux. On n'attend que ça. Donc, c'est une satisfaction, en tout cas, Je parle en mon nom parce que je ne sais pas ce qu'eux ils pensent à ce moment-là. Je leur demanderai demain pendant la cérémonie. Mais c'est une satisfaction. Et puis quand j'ai demandé à quelques filles ou quelques garçons, ils ont dit alors on sera là derrière toi demain, tout à l'heure t'es prête. Et ils sont à fond, quoi. Tout le monde est à fond, il n'y a personne qui me dit. Et puis ceux qui ne peuvent pas parce qu'ils ont une épreuve le lendemain sont dégoûtés. Donc je vois qu'un bon état d'esprit.
Vous rentrez en lice sur les tatamis dans 4 jours, mardi prochain. Vous êtes déjà quintuple championne du monde, Clarissa Agbenienou. Il n'y a qu'un seul objectif maintenant pour vous, c'est la médaille d'or olympique.
Exactement, il n'y a pas d'autre chose. En tout cas, j'irai chercher la plus belle des médailles, celle qui me manque, mais je vais la ramener.
Merci beaucoup, c'est ce qu'on vous souhaite. En tout cas, merci beaucoup Clarissa Agbenienou, judokate et porte-drapeau de cette délégation française pour la cérémonie d'ouverture aux JO de Tokyo. 13h tout à l'heure, belle cérémonie et très bon jeu à vous.
Merci, bonne journée.
Et Clarisse Agbenienou, espoir français pour décrocher une médaille olympique, et elle n'est pas la seule. Alors qui sont les autres sportifs et sportives qui risquent d'illuminer la compétition? Tour d'horizon avec Simon Rubin.
La star de ces Jeux, incontestablement, c'est Simone Biles, la gymnaste américaine. 24 ans, 19 médailles d'or aux mondiaux, déjà 4 médailles d'or olympiques. Militante antiraciste, féministe, une championne qui impressionne d'autant plus qu'elle veut briser le mythe du sportif infaillible. Elle se bat par exemple pour lever les tabous autour de la dépression, de la santé mentale. Elle en parlait récemment sur NBC.
En tant qu'athlète, nous ne sommes pas des super-héros. Nous traversons tous des difficultés. Et quand j'ai commencé ma thérapie, je me disais que j'avais un problème, mais en fait, c'est très sain. Et j'encourage vraiment les athlètes à consulter et surtout à parler.
Autre star américaine, Caleb Dressel, nageur qui rêve d'égaler les 23 médailles d'or olympiques de Michael Phelps. Les diffuseurs télé américains ont d'ailleurs exigé de Tokyo que les finales de natation aient lieu à des heures de forte audience aux États-Unis. C'est dire si l'on attend des merveilles du prodige. On aura un œil sur le Suédois Armand Duplantis, recordman du monde de saut à la perche. Et puis, une star de 13 ans. Elle s'appelle Sky Brown, anglaise, née au Japon. Elle fait du skateboard, star des réseaux sociaux, engagée pour les droits des femmes, gagnante de grandes compétitions internationales. Elle pourrait devenir l'une des plus jeunes médaillées de l'histoire des Jeux.
Simon Rubin du service des sports d'Europe.
Et on peut donc concourir pour les JO à 13 ans. On apprend des choses, voilà, tous les matins. 7h12, c'était le journal d'Émilie Dez. Merci Émilie, à tout à l'heure.